Travaux de Paul à Éphèse. En quittant Corinthe, Paul se rendit en Asie, dans la grande ville d'Éphèse, sur l'emplacement de laquelle il n'y a plus aujourd'hui qu'un village, mais dont les ruines attestent l'ancienne splendeur. Elle était surtout célèbre, depuis longtemps, par un temple magnifique dédié à la fausse divinité Artémis ou Diane, que l'on disait déesse de la chasse et des forêts, et présidente aussi au cours de la lune. Plus de 3 siècles avant l'époque où Paul prêchait l'Évangile, le temple de Diane avait été brûlé par un insensé qui voulait ainsi s'acquérir un nom illustre. Mais on l'avait reconstruit avec une splendeur plus grande que la première. Les Éphésiens prétendaient que ce temple renfermait une image de la déesse qui était tombée du ciel. La superstition s'était emparée de ce fait et, en bien des lieux, au près et au loin, on vénérait la grande Diane d'Éphèse. L'amour du gain y avait aussi trouvé son compte. Nombre d'ouvriers en argenterie fabriquaient des images en argent du temple de Diane et gagnaient beaucoup en les vendant aux dévots qui y attachaient une idée superstitieuse. Quelle folie, dirons-nous ! Hélas, de nos jours, au sein de la chrétienté, nous trouvons des choses semblables dans une église qui prétend être la seule vraie et dont les temples splendides renferment une foule d'idoles. Et ce qu'il y a de plus triste et de plus affreux en même temps, c'est que ces idoles sont honorées sous les noms de la Vierge Marie ou des apôtres du Seigneur et que souvent elles représentent de prétendus saints ou même des hommes dont l'existence est douteuse. Que penser du fait qu'en plus d'une de ces églises on montre des images de la Vierge, que l'on prétend aussi être descendu du ciel? Voilà ce qu'est devenue sur la terre la pure et sainte assemblée de Dieu. Et de nos jours, comme au jour de Paul, combien d'artistes et d'artisans employés à la fabrication de crucifix richement ornés d'images de saints, d'objets pieux comme on les nomme. Quel profit ne tirent de leur vente nombre de marchands. C'est une idolâtrie plus horrible que celle des anciens temps, parce qu'elle se couvre du nom de Christ. Ah, le cœur de l'homme est resté le même, et l'exhortation du vieil apôtre Jean est toujours de saison. Enfants, gardez-vous des idoles. En même temps que le paganisme, il régnait à Éphèse une autre superstition, un autre mal qui se rattache au premier. On s'occupait beaucoup de magie, c'est-à-dire de pratiques par lesquelles on prétendait connaître les choses cachées de la nature et du monde invisible, deviner et prédire l'avenir. Cette science, faussement ainsi nommée, s'enseignait dans quantité de livres auxquels on attachait une grande valeur et dont certains, très célèbres, portaient le nom d'écrits éphésiens. Ne savons-nous pas combien il y a de nos jours aussi de ces astrologues, voyantes, cartomanciennes et spirites, qui disent être en communion avec le monde invisible, avec les âmes des morts. Toutes ces choses sont formellement condamnées par la parole de Dieu, et nous ne saurions en avoir une assez grande horreur. Tel était l'état d'Éphèse lorsque Paul y vint. Il n'y séjourna pas longtemps cette fois. Il voulait se rendre à Jérusalem. Mais il promit aux Juifs avec lesquels il avait discouru dans la synagogue et qui voulaient le retenir qu'il reviendrait vers eux. Il laissait cependant des disciples dans cette grande ville dans la personne d'Aquilas et Priscilla, et peut-être d'autres s'y trouvaient-ils déjà, sans que nous sachions par qui l'Évangile leur avait été apporté. Durant l'absence de Paul, il se passa à Éphèse un fait intéressant. On y voit comment le Seigneur choisissait et préparait lui-même, en employant souvent d'humbles instruments, les ouvriers qu'il envoyait ensuite travailler à son œuvre. Il vint à Éphèse un Juif originaire de la grande ville d'Alexandrie en Égypte, célèbre par ses écoles de philosophie, de sciences et de littérature. Ce Juif, nommé Apollos, avait peut-être fait des études dans sa ville natale, où se trouvaient des milliers de ses coreligionnaires. Quoi qu'il en soit, c'était un homme éloquent et puissant dans les Écritures, c'est-à-dire qu'il les connaissait bien et savait exposer et appliquer avec force ce qu'elles enseignent. Les Écritures, c'était l'Ancien Testament, qui seul existait alors. Apollos avait une certaine connaissance du Seigneur Jésus, mais il n'était pas allé plus loin que ce que Jean le Baptiseur enseignait à ses disciples. Il reconnaissait donc Jésus comme le Messie, le Christ qui avait été annoncé par les prophètes, et il avait sans doute appris sa mort et sa résurrection. Mais il ignorait les grands résultats de l'ascension du Seigneur et de l'envoi de l'Esprit-Saint, les précieuses vérités qui s'y rattachent et les glorieux privilèges qui en découlent pour le croyant. L'accomplissement des promesses de Dieu à son peuple dans la personne de Jésus remplissait son cœur, de sorte qu'avec ferveur d'esprit il parlait, enseignant diligemment les choses qui concernaient Jésus, selon les lumières qu'il avait. Lorsqu'un homme est sincère devant Dieu et qu'il fait bon usage de ce qu'il a reçu, étant disposé à se laisser enseigner, Dieu ajoute à ce qu'il a déjà, Marc 4, verset 25.
Car à quiconque a, il sera donné, et à celui qui n'a pas, cela même qu'il a sera ôté.
C'est ce qui eut lieu pour Apollos. Comme il parlait avec hardiesse dans la synagogue, Aquilas et Priscilla l'entendirent et reconnurent bientôt ce qui lui manquait en fait de connaissance de la vérité divine. Ils le prirent chez eux et lui expliquèrent plus exactement la voie de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu a opéré par Jésus pour le salut des pécheurs et pour les introduire auprès de lui dans la jouissance de la vie éternelle. L'homme savant et éloquent ne regarda pas comme au-dessous de lui d'être le disciple des humbles faiseurs de tentes. Il profita à leur école, et Dieu bénit leurs enseignements. Apollos devint un zélé serviteur de Jésus. Apollos, s'étant senti appelé à aller à Corinthe, qui était dans la province d'Achaïe, les frères d'Éphèse écrivirent aux disciples de cette contrée et les exhortèrent à le recevoir. C'était une lettre de recommandation, telle que les assemblées du Seigneur la donnent encore aujourd'hui à un frère ou une sœur qui se rendent dans une assemblée où ils sont étrangers. Ainsi se montre et se maintient la communion des saints entre eux, car ils sont membres du même corps, le corps de Christ. Ainsi est manifesté le grand fait de l'union et de la solidarité des assemblées. Apollos étant arrivé en Achaïe et étant allé à Corinthe, Dieu, dans sa grâce, se servit de lui pour faire avancer les croyants dans la connaissance de Jésus, les affermir dans la vérité et les défendre contre les raisonnements des Juifs. Avec sa grande connaissance des Écritures, il réfutait publiquement ceux-ci avec une grande force, leur démontrant, par les Écritures même, que Jésus était le Christ, le Messie promis et attendu. Apollos avait beaucoup travaillé à Corinthe. Dieu, par son moyen, y avait fait du bien aux âmes. Puis Apollos était retourné à Éphèse. Mais l'ennemi, Satan, avait semé parmi les croyants corinthiens un esprit de parti, comme nous l'avons vu. Les uns se réclamaient de Paul, les autres de l'éloquent Apollos. Aussi, quand Paul, revenu à Éphèse, le pria d'aller à Corinthe, sans doute pour être en aide aux Corinthiens dans les difficultés où se trouvait l'assemblée, Apollos refusa de s'y rendre, au moins pour le moment, craignant peut-être d'attiser l'esprit de parti par sa présence. Plus tard, nous retrouvons Apollos en Crète en compagnie de Zénas, docteur de la loi, que nous ne connaissons que par cette mention. Paul, écrivant à Tite qu'il avait laissé en Crète, lui recommande d'avoir soin de ses deux serviteurs de Dieu et de veiller à ce que rien ne leur manque. Tite 3, verset 13.
Accompagne avec soin Zénas, le docteur de la loi, et Apollos, afin que rien ne leur manque.
Là se termine dans la parole de Dieu l'histoire de l'éloquent Apollos. Il a servi dans son temps au dessein de Dieu et aura sa récompense. Mais malgré ses talents, il n'a pas, comme serviteur, la même place que Paul qui, extérieurement du moins, avait moins d'apparence. Paul revint donc plus tard à Éphèse après avoir traversé différentes provinces de l'Asie mineure, fortifiant tous les disciples par ses enseignements et ses exhortations. À son arrivée à Éphèse, il se passa un fait qui nous rappelle une vérité d'une très grande importance. L'apôtre y rencontra des disciples dont le langage, sans doute, le surprit, comme trahissant une certaine ignorance du christianisme. Il leur dit donc, « Avez-vous reçu l'Esprit Saint après avoir cru ?» Il faut nous rappeler que le trait essentiel du christianisme, ce qu'il a inauguré après la mort et la résurrection du Sauveur et son ascension glorieuse, c'est la descente de l'Esprit Saint qu'il a envoyé du ciel pour être à jamais avec les siens. Il forme l'assemblée et y demeure. Elle est ainsi l'habitation de Dieu, et il habite aussi dans chaque croyant dont le corps est le temple du Saint-Esprit. Quiconque a entendu la parole de la vérité, l'évangile du salut, et qui y a cru, est scellé du Saint-Esprit de la promesse. Jean 14, verset 16.
Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur pour être avec vous éternellement.
Éphésiens 2, verset 22.
Vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit.
1 Corinthiens 6, verset 19.
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez de Dieu, et vous n'êtes pas à vous-même?
Éphésiens 1, verset 13 et 14.
En qui vous aussi vous avez espéré, ayant entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, auquel aussi ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse, qui est les arts de notre héritage, pour la rédemption de la possession acquise, à la louange de sa gloire.
C'est le caractère du chrétien, l'Esprit Saint habite en lui. La question de Paul revenait donc à ceci, êtes-vous vraiment des chrétiens ? Les disciples furent bien étonnés en l'entendant. Ils répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire si l'Esprit Saint est. » Ils ne mettaient pas en doute l'existence du Saint-Esprit, car l'Ancien Testament en parle en maints endroits, et Jean le baptiseur dont ils étaient disciples l'avait aussi mentionné. Mais ils ignoraient ce grand fait que, le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint était venu pour demeurer sur la terre dans l'assemblée et en chaque croyant. Combien n'y a-t-il pas aujourd'hui de personnes qui professent être chrétiennes et qui ignorent, ou ont oublié, ou ne tiennent pas compte de cette grande vérité? C'est cet esprit qui rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, qui nous scelle pour le jour de la rédemption, qui nous fait jouir des choses divines, qui nous guide dans la vérité et qui est notre force pour nous conduire sainement. Paul dit alors à ses disciples, « De quel baptême, donc, avez-vous été baptisés ? Car s'ils avaient reçu le baptême chrétien, celui qui se donne en vue de Christ et de sa mort, ils auraient eu connaissance de la venue de l'Esprit-Saint. Aussi, répondirent-ils, du baptême de Jean. Alors l'apôtre leur dit, « Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple qu'ils crussent en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Jean le baptiseur annonçait la venue de Christ et prêchait la repentance, afin que l'on fût préparé à le recevoir. Ceux qui se repentaient étaient baptisés en vue de cela. Le baptême chrétien est la figure de la mort avec Christ. Il est le signe de l'introduction de l'assemblée chrétienne sur la terre. Il était donné aux croyants. Ses disciples, encore ignorants mais sincères, furent sans doute heureux d'entendre la bonne nouvelle du salut par la foi en Christ. Ils la reçurent et furent baptisés pour le nom du Seigneur Jésus. Ensuite, Paul leur imposa les mains, et l'Esprit Saint vint sur eux. Sa présence se manifesta aussitôt, comme elle s'était montrée le jour de la Pentecôte dans les disciples, plus tard chez les Samaritains, et ensuite chez Corneille et les siens. Ils parlèrent des langues étrangères et prophétisèrent. Si les dons miraculeux, signes extérieurs de la puissance du Saint-Esprit n'existent plus, c'est toujours le privilège de chaque chrétien de posséder le Saint-Esprit, dont la puissance se fait sentir dans le cœur et agit dans la vie. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, celui-là n'est pas de lui, écrivait l'apôtre Paul aux Romains. Romains 8, verset 9. après sa rencontre avec les disciples de Jean, auxquels il avait fait connaître plus exactement la vérité chrétienne, Paul se mit à enseigner dans la synagogue. Pendant 3 mois, il parla avec hardiesse, persuadant ses auditeurs des choses du royaume de Dieu. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Ce n'est pas actuellement quelque chose de visible, comme les royaumes de la terre, mais c'est l'autorité de Dieu établie dans les cœurs de ceux qui croient à l'Évangile, à la bonne nouvelle du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, le roi de ce royaume. C'est ainsi que l'apôtre rend grâce au Père qui nous a rendus capables de participer au lot des saints dans la lumière, qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Colossiens 1, versets 12 et 13. Ceux qui font partie de ce royaume ne sont pas assujettis à l'observation de cérémonies et de règles extérieures, comme c'était le cas pour les Juifs, car le royaume de Dieu est justice et paix et joie dans l'Esprit Saint. Romains 14, verset 17. L'Esprit de Dieu donne aux croyants de marcher dans une vraie justice, car ils ont revêtu le nouvel homme créé selon Dieu en justice et sainteté de la vérité, et il remplit leur cœur de la paix de Dieu et d'une joie pure. Ce sont les avant-goûts du ciel. Un homme pécheur, dans son état naturel, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il lui faut être lavé de ses péchés par le sang du Seigneur Jésus pour avoir une nature pure et sainte comme celle de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur disait à Nicodème, « Si quelqu'un est né d'eau et de l'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Paul annonça donc sans entrave pendant 3 mois dans la synagogue ce qui concerne le royaume de Dieu. Mais au bout de ce temps, l'inimitié du cœur naturel de l'homme contre Dieu se réveilla. L'apôtre rencontra de la part de plusieurs des Juifs l'opposition qu'ils avaient montrée partout. Le cœur naturel aime mieux les choses du monde que celles du royaume de Dieu, et il préfère une religion terrestre et de forme à la vérité qui découvre à l'homme son état de péché, de ruine et d'impuissance, et ne lui laisse de ressources que dans la grâce de Dieu. Ces Juifs, qui avaient entendu la bonne nouvelle et n'avaient pas cru, s'endurcissaient et se rebellaient contre Dieu. C'est ce qui arrive toujours quand on résiste à la vérité. Et non seulement ils repoussaient le salut pour eux-mêmes, mais cherchaient à en détourner d'autres en disant du mal des chrétiens devant la multitude. Que devait faire Paul devant l'opposition méchante des Juifs? Il ne pouvait rester avec eux, ni laisser les disciples parmi eux. La parole de Dieu enseigne qu'il faut se séparer du mal et des méchants. Paul se retira donc, laissant les Juifs rebelles à leur incrédulité, comme il avait dû le faire à Corinthe. Il sépara aussi d'avec eux les disciples, et, au lieu d'enseigner dans la synagogue, il continua son œuvre d'évangélisation dans l'école d'un homme nommé Tyrannus. Nous ne savons rien d'autre sur ce dernier. Peut-être était-il un disciple, en tout cas il n'était pas opposé aux chrétiens, et nul doute que ce fut pour lui une bénédiction d'avoir donné son école pour l'œuvre du Seigneur, car Dieu tient compte de tout ce qui est fait pour lui. De cette manière, l'assemblée à Éphèse fut nettement et ouvertement séparée de la synagogue et des Juifs. Et dans cette école de Tyrannus, l'apôtre, non plus seulement les jours de sabbat, mais tous les jours durant 2 ans, annonça la parole de Dieu. Quelle grande et sainte activité, n'est-ce pas? Ah, c'est que Christ était tout pour Paul. Pour lui, vivre, c'était Christ, le Fils de Dieu qu'il avait aimé, et s'était livré lui-même pour le sauver. Aussi mettait-il tout son bonheur à travailler pour ce précieux Sauveur. Il ne se lassait pas, sa vie même ne lui était pas précieuse, pourvu qu'il accomplît son service pour Jésus en proclamant l'évangile de la grâce de Dieu. Puisse-t-il en être ainsi de nous? Nous ne pouvons sans doute pas avoir le même champ de travail, mais si nous connaissons et goûtons l'amour de Jésus, s'il remplit notre cœur, nous pourrons, même dans la vie la plus humble, travailler pour le Seigneur. Une grande bénédiction fut le résultat du travail de Paul. la parole du Seigneur se répandit non seulement à Éphèse, mais dans toute la province d'Asie, et tous ceux qui y demeuraient l'entendirent, tant juifs que grecs. Et Dieu, pour confirmer la prédication de son serviteur, faisait des miracles extraordinaires par le moyen de Paul. On portait sur des infirmes des mouchoirs et des tabliers qui avaient touché son corps, et les malades étaient guéris, et les esprits malins sortaient du corps des possédés. Il se passa alors à Éphèse deux faits remarquables. L'un montrait que la puissance que Paul déployait contre les démons était bien celle de Dieu et de Jésus, et le second fait voir la puissance de la parole de Dieu sur le cœur et la conscience de ceux qui la recevaient. Il y avait des Juifs qui faisaient métier de délivrer des esprits malins ceux qui en étaient possédés. Ils usaient pour cela de certaines pratiques et de paroles magiques. Réussissaient-ils? Nous ne le savons pas. Le Seigneur Jésus parlait à ces gens-là. Lorsque, accusé par les pharisiens de chasser les démons par le prince des démons, il répondit, « Vos fils, par qui les chassent-ils ?» Matthieu 12, verset 27. À Éphèse se trouvaient sept fils d'un nommé Séva, principal sacrificateur juif, qui courait çà et là pour exercer ce métier d'exorciste ou conjureur. Ayant vu que l'apôtre chassait les démons en invoquant le nom de Jésus, ils essayèrent de faire comme lui, en disant aux possédés, « Je vous adjure par Jésus que Paul prêche. » Deux d'entre eux étant entrés dans une maison où était un démoniaque, lui parlèrent ainsi, « Mais on ne peut se servir du saint nom de Jésus comme d'une formule magique, ce serait le profaner. » C'était par la foi en Jésus, en sa puissance, que Paul et les autres apôtres accomplissaient des miracles. Aussi, l'esprit malin, par la bouche du possédé, répondit aux exorcistes, « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Le démon reconnaissait l'autorité du Seigneur et la puissance qu'il donnait à son fidèle serviteur, mais des incrédules n'avaient aucun pouvoir sur lui. Au contraire, c'est le démon qui se montre plus fort qu'eux. Avec cette vigueur qui, au temps de Jésus, faisait que nul ne pouvait dompter un démoniaque, même en le liant de chaînes, Marc 5, versets 3 et 4, l'homme possédé se jeta sur les deux exorcistes et les maltraita, de sorte qu'ils s'enfuirent de la maison nus et blessés.
Marc 5, versets 3 et 4. Qui avait sa demeure dans les sépulcres, sortant des sépulcres, le rencontra, et personne ne pouvait le lier, pas même avec des chaînes, car souvent, quand il avait été lié de fers aux pieds et de chaînes, il avait rompu les chaînes et mis les fers en pièces, et personne ne pouvait le dompter.
Que peut l'homme pécheur contre la puissance satanique? Jésus seul a pu vaincre le diable et délivrer ceux que le diable opprimait. Ce fait vint à la connaissance de tous ceux qui demeuraient à Éphèse, juifs et grecs, et ils furent saisis de crainte. Il leur était évident que c'était bien la puissance de Dieu qui agissait par le moyen de Paul. Or l'homme, en présence de Dieu, craint toujours. Mais en même temps, le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Le second fait nous montre la puissance de la parole de Dieu sur la conscience de ceux qui avaient cru et la réalité de leur foi. Plusieurs, saisis aussi par le sentiment de la présence de Dieu, n'eurent pas honte de venir confesser et déclarer quelle avait été leur vie passée lorsqu'ils vivaient loin de Dieu, assujettis au pouvoir de Satan et esclaves de leur convoitise. Ils glorifiaient ainsi le grand amour de Dieu et sa riche miséricorde qui était venue les chercher et les sauver par Christ. Plusieurs autres, qui s'étaient adonnés aux coupables pratiques de la magie, voyant bien que ce n'était que des séductions de Satan, apportèrent leurs livres qui traitaient de ces choses et les brûlèrent devant tous. Ils faisaient ainsi une confession publique de leur foi et de leur renoncement aux œuvres mauvaises. C'était une grande perte pour eux, une perte d'environ 50 000 pièces d'argent, car ces livres avaient un grand prix. Mais, ayant compris que le chrétien ne peut s'associer à rien de ce qui est de Satan, ils firent joyeusement ce sacrifice. Quelques lecteurs penseront qu'au lieu de brûler ces livres, on aurait pu les vendre et en consacrer le prix à de bonnes œuvres, par exemple à soulager les pauvres. Mais ces livres n'auraient-ils pas fait du mal à ceux qui les auraient achetés? Les vendre, c'était répandre le poison. Puisqu'ils étaient mauvais, le feu était tout ce qui leur convenait, et plût à Dieu que ce fût le sort de tous les mauvais livres. C'est avec une telle puissance, dit l'écrivain du livre des Actes, que la parole du Seigneur croissait et montrait sa force. Puisse-t-elle aussi montrer sa force sanctifiante au milieu de nous? Puissent tous ceux qui lisent ces lignes, et surtout les jeunes gens, faire une sérieuse attention à leur lecture. Il y a de nos jours une magie, une séduction de Satan bien terrible. D'innombrables livres excitent et souillent l'imagination et le cœur. Poison subtil qui perd les âmes. Dieu veuille nous en garder. Fuyons-les comme une peste. Ici se terminent les travaux de Paul à Éphèse, où fut établie une assemblée nombreuse et marchante avec le Seigneur.